décryptage. Anne Corpet.
Pas de raz-de-marée républicain aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Les prédictions qui affolaient les démocrates ne se sont pas concrétisées. Ils ont limité les dégâts. Le Congrès n'a pas encore basculé. Si les républicains l'emportent à la Chambre, ce sera avec une courte majorité. Et les démocrates pourraient conserver la leur au Sénat. Mais tout reste ouvert. Quoi qu'il en soit, Donald Trump ne surfera pas sur une vague d'élus issus de ses rangs pour se lancer à nouveau à la conquête de la Maison-Blanche. Et Joe Biden, lui, semble moins fragilisé que prévu. Les résultats de ces élections sont encore incertains, mais on peut déjà en tirer quelques enseignements. Et c'est ce que nous allons faire ce soir dans Décryptage. Et avec nous en studio, Célia Belin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques de l'université Panthéon Assas, chercheur associé à la Brookings Institution à Washington, et vous avez écrit « Des démocrates en Amérique ». C'est un livre paru chez Fayard. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, toujours pas de résultat définitif, ni à la Chambre, ni au Sénat. On s'attendait à une telle incertitude, à un résultat aussi serré?
Non, c'est une surprise, il faut bien le dire, pour tous les commentateurs. On prévoyait plutôt une vague républicaine assez nette. Les sondages montraient bien, il y a depuis quelques temps déjà, qu'il y avait une solidification du camp républicain et puis l'impression que, de toute façon, de manière historique, un président en exercice perd plutôt les élections de mi-mandat. Celui-ci était impopulaire, il est à 42% d'approbation, ce qui est peu aux États-Unis. Il y a un record d'inflation. Ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu une telle inflation aux États-Unis. Donc, légitimement, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une assez forte vague républicaine. Et il semblerait que ce ne soit pas du tout le cas. Il y a une résistance très forte du côté du camp démocrate. Et on a pour le moment des résultats très, 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 très serrés qui peuvent faire basculer d'un côté ou l'autre la Chambre ou le Sénat, mais qui de toute façon ne montre pas une domination des républicains.
Alors cette absence de raz-de-marée républicain, c'est avant tout un échec du camp conservateur ou ce sont les démocrates qui se sont illustrés?
Alors c'est un grand ensemble de facteurs et on est tout juste en train de les décrypter, évidemment. C'est un petit peu de tout cela. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un échec des républicains à présenter des candidats de qualité qui pourraient rallier l'ensemble de l'Amérique. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a un certain nombre de ces candidats qui ont gagné leur primaire sur une base trumpiste, très radicale, très vindicative et qui sont trouvés donc en décalage avec leur électorat. De l'autre côté, les démocrates ont appris pas mal de leurs erreurs aussi de 2020, même s'ils avaient gagné, mais ils n'avaient pas autant gagné qu'on aurait pu le croire parce qu'ils étaient probablement sur des thèmes trop progressistes. Cette fois, sachant qu'ils étaient dans un contexte économique pas très difficile, favorable, du coup, ils se sont concentrés sur des sujets, comme on dit, kitchen table, de la table de la cuisine dont on parle. Donc, c'est le sujet, par exemple, de l'éducation des enfants, le sujet du financement de la sécurité sociale, des études, etc. Et en fait, en parlant assez concret, les démocrates ont aussi compensé leur perte relative. Et puis, il y a le contexte général aussi, le contexte de grands sujets qui font débat, le sujet de l'avortement, le sujet de la démocratie, etc.
Il y a aussi quelque chose de remarquable, c'est que l'ancien président Donald Trump s'est beaucoup impliqué dans la campagne. Alors, est-ce qu'il risque d'être rendu responsable de cette absence de victoire éclatante?
Alors, c'est encore une fois, la réponse est un peu difficile. Pour les fans de Donald Trump absolus, il y a une base quand même trumpiste au sein du Parti républicain. Ceux-là, non, en fait, parce qu'ils continuent de croire systématiquement à ce que Donald Trump leur dit.
Ça veut dire qu'il y a un décalage qui s'annonce entre la base électorale et l'appareil du Parti républicain.
Évidemment. Puisque les excuses de Donald Trump, c'est que de toute façon, le système est corrompu, le système est contre lui. Et il l'a dit plus tôt dans la journée, s'il gagne, c'est grâce à lui, mais s'il perd, ce n'est pas de sa faute. Et ça résume tout le trumpisme. Et donc, cette base, elle continuera d'être convaincue. Simplement, il y a un ensemble de républicains aujourd'hui qui sont de plus en plus sceptiques du leadership de Donald Trump pour 2024. Quand ils étaient sondés encore il y a moins d'un mois, il y a seulement 47% des républicains qui disaient souhaiter que ce soit Donald Trump leur candidat en 2024. C'est beaucoup, mais c'est moins que la majorité des républicains. Et là, on peut imaginer qu'avec ce semi-échec en forme de victoire des républicains, cela creuse un peu plus. Et d'autres voix vont s'élever.
Surtout que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a lui largement remporté le scrutin en Floride avec plus de 20 points d'avance. Et ce, malgré les attaques portées contre lui par Donald Trump. Alors, est-ce que ça veut dire... Et d'ailleurs, cet après-midi, le site conservateur Fox News titrait « Ron DeSantis est le nouveau leader du Parti républicain ». Ça veut dire qu'il est sur une rampe de lancement pour la candidature républicaine, ce gouverneur de Floride ?
Oui. Alors, il faudrait encore que l'un ou l'autre se déclare. C'est-à-dire que ni Donald Trump ni Ron DeSantis ne sont officiellement candidats à la présidentielle. Simplement, c'est évidemment le duel que tout le monde regarde, observe. Très récemment, Donald Trump est vraiment allé à l'attaque contre Ron DeSantis. Il faut savoir qu'au moment de son élection, Ron DeSantis, il était soutenu par Donald Trump. Il était un grand fan de Donald Trump. Il l'avait utilisé. Mais les choses ont basculé autour du moment du Covid, quand il a réussi à vraiment créer un narratif propre à lui et en fait créer une sorte de Trumpisme sans Trump, qu'il a mis vraiment en lumière et qui a renforcé le Parti républicain en Floride très fortement. Donc le Parti républicain local lui est très gré de ce travail en profondeur. Le reste de l'appareil républicain attendait de voir ce qui ressortait un peu de ces élections de mi-mandat. Et donc là, en effet, c'est Ron DeSantis qui sort en position de force. Et
il a même raflé le comté de Miami-Dade qui était acquis aux démocrates.
Oui, c'est vraiment incroyablement surprenant. Ça dit encore davantage de la qualité du candidat Ron DeSantis qui arrive en fait à faire passer des idées extrêmement populistes du nouveau parti républicain, mais sous des atours qui ont l'air beaucoup plus chic, beaucoup plus présentable et de leadership qui fait un peu envie. Ron DeSantis, c'est un peu l'avenir de l'Amérique, alors que Donald Trump, même ses plus grands supporters, voit la colère, voit aussi l'esprit revanchard que Ron DeSantis n'a pas du tout. Et récemment, il a fait plein d'actions d'éclat, par exemple, comme reconduire une partie des immigrés qui arrivaient à sa frontière, reconduire, les mettre dans des bus et les envoyer dans le Delaware, dans le New Hampshire ou je ne sais où.
Des États démocrates.
Voilà, dans des États démocrates pour... et c'est vraiment une opération de communication qui dit, voilà, vous allez comprendre ce que c'est que l'immigration. Et donc, Il a travaillé son image, il a travaillé son électorat et là, il sort renforcé.
Et alors, côté démocrate, est-ce que ces résultats confirment l'option d'une nouvelle candidature de Joe Biden en 2024, même s'il va avoir 80 ans là, dans les jours qui viennent ?
Je ne pense pas qu'il y ait un lien, pour le coup, direct entre les résultats de ces élections et la capacité de Joe Biden de se représenter en 2024. Donc d'abord, il est âgé. Ensuite, il est en mandat. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer encore. Mais en effet, il faudrait qu'il puisse commencer à donner des indications parce que les remplaçants potentiels veulent commencer à se préparer au cours de l'année prochaine. Il se dit beaucoup que Joe Biden pourrait avoir envie de se représenter seulement si Trump se représente. C'est-à-dire que Joe Biden n'ira pas pour le principe et, à mon avis, n'ira pas contre un Ron DeSantis. Simplement, lui aussi, il veut pouvoir mesurer l'état de la nation. Ce que ça dit davantage, ces résultats plutôt favorable aux démocrates, c'est qu'il va avoir une capacité dans les deux prochaines années de faire des choses, de construire un récit politique optimiste pour le camp démocrate. Et ça, ce n'était pas arrivé depuis longtemps, puisque 2020, c'est la reprise, c'est la victoire de la démocratie. Ce n'est pas vraiment la victoire encore des démocrates. Là, c'est une forme de confirmation qu'il y a un chemin pour un grand parti démocrate qui héberge à la fois modéré et progressiste et qui se trouvera son champion au cours de l'année prochaine.
Alors justement, pendant la campagne, Joe Biden a présenté ses élections comme un combat pour préserver la démocratie. Écoutez ce que disait le président américain il y a quelques jours.
La chose remarquable au sujet de la démocratie américaine, c'est ceci. Un nombre suffisant d'entre nous, en un nombre suffisant d'occasions, a choisi de ne pas démanteler la démocratie, mais de la préserver. Nous devons choisir cette voie à nouveau.
Alors, il y a quand même de nombreux candidats républicains qui contestent toujours la légitimité de Joe Biden à la Maison-Blanche, qui ont été élus. Alors, est-ce qu'il y a toujours des menaces sur la démocratie américaine? Ces nouveaux élus, ils vont quand même avoir un pouvoir de nuisance, notamment lors de la certification des résultats de la prochaine présidentielle au Congrès, mais aussi dans les États.
Oui, ces candidats vont avoir un pouvoir de nuisance. Mais ce qui est intéressant sur le fait que les Américains se préoccupent de leur démocratie et de l'avenir de leur démocratie, c'est que les deux camps ne se préoccupent pas de la même chose. Parce qu'il y a des républicains très préoccupés par l'avenir de leur démocratie, parce qu'ils sont persuadés, ils ont été persuadés notamment par Donald Trump, que le vrai danger pour la démocratie, ce sont les fraudes massives qui ont eu lieu potentiellement en 2020. Il y avait quand même 51% des candidats républicains qui se sont présentés là aux midterms qui émettaient des doutes par rapport à la légitimité du scrutin de 2020. Donc on voit bien que c'est une idée très profonde, très présente chez les républicains, qu'il y a des fraudes et qu'on leur vole leur démocratie. De l'autre côté, les démocrates et plein d'indépendants aussi considèrent que non, le vrai danger pour la démocratie, c'est en effet ces manipulations à la fois autour du redécoupage électoral, des circonscriptions qui permet une domination d'un parti minoritaire tel que les Républicains, alors même qu'ils ne gagnent pas dans la majorité des voix, mais qu'ils gagnent des circonscriptions. Et puis par ailleurs, une manipulation pour potentiellement truquer le résultat de l'élection présidentielle à venir. Et donc, c'est toute la question de savoir si, comme certains le prédisent, on peut manipuler le système pour faire gagner le candidat républicain, quand bien même il n'aurait pas un suffisamment grand nombre de voix, ne pas respecter le choix des électeurs.
Alors, ce scrutin donc serré, est-ce que ça va accroître les risques de contestation des résultats, justement ?
Là, il y a déjà un certain nombre de candidats qui ont soit perdu, soit qui sont en passe de perdre. Je pense notamment à, par exemple, Kerry Lake dans l'Arizona qui est une candidate trumpiste, une ancienne de Fox News qui essaie d'être gouverneur de l'Arizona, qui est déjà en train de parler de manipulation, de fraude, etc. Donc ces sujets vont revenir très fort. On peut penser qu'une partie, notamment des trumpistes qui ont été évincés, qui ont perdu, vont jouer la carte de la manipulation. Mais plus profondément, il y a un travail de fond qui est réalisé par la frange vraiment d'extrême droite aux États-Unis qui essaye de changer l'idée même de comment se passent les élections présidentielles. Les élections présidentielles, c'est un suffrage indirect, on passe par des grands électeurs, mais ces grands électeurs représentent le suffrage majoritaire dans les États. Or, certains États essaient de faire changer la loi électorale. Et il va y avoir un sujet devant la Cour suprême qui va essayer d'étudier cette question pour savoir, et là, donc, on en entendra probablement parler à la Cour suprême pour savoir si cette décision peut vraiment appartenir aux États ou si on peut avoir des contrôles sur le choix des États de décider de leurs grands électeurs.
Alors, une victoire emblématique en date pour le camp du président Biden, hein, c'est celle du siège de sénateur de Pennsylvanie qui a été remportée par John Fetterman face au républicain Mehmet Oz, qui était soutenu par Donald Trump. On écoute le nouveau sénateur démocrate de l'État natal de Joe Biden.
Je n'aurais jamais pensé que nous transformerions ces comtés républicains en comtés démocrates. Mais nous avons fait ce que nous avions à faire. Et c'est pour cette raison que ce soir, je deviens le prochain sénateur américain pour la Pennsylvanie. Ici, on se bat pour le futur de toutes les communautés en Pennsylvanie. Je suis heureux de ce qu'on a défendu pendant cette campagne. Protéger le droit des femmes à choisir, augmenter le salaire minimum, la santé qui est un droit humain fondamental, ça m'a sauvé la vie. Et ça doit toujours être là pour vous quand vous en avez besoin. Et puis défendre notre démocratie.
Alors on l'entend, John Fetterman parle du droit des femmes, de la santé. Est-ce que c'est la thématique de l'avortement qui a sauvé les démocrates de la débâcle ?
Alors, on commence à se rendre compte avec les sondages de sortie des urnes qu'en effet, l'avortement et la question de l'avortement a joué un rôle fondamental, probablement plus en fait que la question de la démocratie dans cette élection. Il y a 27% des électeurs en sortie d'urne qui disent que c'est le sujet le plus important sur lequel ils ont voté, juste derrière l'inflation. Donc, on voit bien que c'était un mouvement moteur de mobilisation. Or, ce mouvement de mobilisation, depuis des décennies, depuis la décision de Roe v. Wade de 73 qui légalisait au niveau fédéral l'avortement, était un sujet de mobilisation pour les Républicains. Et ça s'est inversé d'un seul coup en juin dernier avec la décision de la Cour suprême de revenir sur ce droit fédéral.
Et ça mobilise les femmes, mais aussi les jeunes.
Oui, les jeunes femmes en particulier et tous leurs alliés, comme on dit dans la génération Gen Z, c'est-à-dire une grande mobilisation de la jeunesse autour de cette question. Une jeunesse qui est furieuse parce que les sujets qui lui tiennent le plus à cœur, les droits reproductifs, mais aussi par exemple le climat, ou encore, et c'est un point très important parce qu'il y a eu 11% qui disent que c'est le plus important pour eux, le contrôle des armes à feu, et on le néglige complètement, mais pour la jeunesse c'est extrêmement important. Ça a cimenté le vote de la jeunesse qui ont choisi un écart de plus de 28 points, les démocrates plutôt que les Républicains. C'est ça qui fait toute la différence parce que jusqu'à 45 ans, en gros, les électeurs votent moitié-moitié Républicains et démocrates et au-delà, ils votent largement Républicains. Donc c'est vraiment cette jeunesse, les moins de 30 ans, qui ont voté massivement pour les démocrates et qui ont fait cette victoire parce que non seulement ils ont voté pour eux, mais ils se sont mobilisés, ils se sont rendus aux urnes. Et victoire, je ne veux pas dire, cette non-défaite, pour être plus précis.
Et il faut signaler que tous les scrutins locaux, hein, organisés sur le sujet de l'avortement ont été tranchés en faveur de la défense du droit à l'IVG. Il y avait 5 consultations au niveau des États ce mardi. Alors, il y a 3 courses encore au Sénat, on n'a plus beaucoup de temps. 3 courses encore indécises, la Géorgie, le Nevada, l'Arizona. En Géorgie, il y a une loi particulière qui prévoit un deuxième tour, c'est ce qui risque d'arriver. Ça veut dire qu'on n'aura pas le Sénat avant le 6 décembre, c'est ça ?
Voilà, quand le scrutin est trop serré, il y a un deuxième tour et celui-là pourra avoir lieu en décembre. Donc on va imaginer que, surtout si on a un scénario à 49-50, très très serré, ça va être vraiment le scrutin sur lequel tout le monde va se précipiter, sur lequel tout le monde va se concentrer. Et tout l'argent, il y a déjà énormément d'argent, il y a 16 milliards qui ont été dépensés pour ces élections de mi-mandat. Et ça va continuer, il va y avoir encore plus d'argent qui vont être versés sur ce combat-là, même si à la fin, de toute façon, on a un Sénat qui est divisé. Même si que ce soit les Républicains ou les démocrates qui gagnent, on a de toute façon un gouvernement profondément divisé.
Avec aucun parti n'ayant la super majorité de 60 nécessaire pour faire passer des textes essentiels. Et si la Chambre bascule côté républicain, ce sera avec une marge étroite et ça ne sera pas une majorité facile à diriger. Hein. Si c'est Kevin McCarthy qui reprend la place de speaker, il aura du mal à arbitrer sa propre majorité. Il va y avoir des tensions au sein du camp républicain aussi.
Oui, parce que s'il veut faire passer des législations tout seul, c'est-à-dire simplement avec son camp et qu'il a une majorité, là on parle de 5 à 10 voix, peut-être même moins, peut-être 2, il va devoir mettre tout le monde d'accord. Or, on sait qu'il y a des divisions profondes au sein des partis. Au sein du Parti républicain, il y a l'aile d'extrême droite, qu'on appelle le Freedom Caucus, qui sont vraiment les Trumpistes, mais qui en général, ne font aucune concession sur aucun sujet, qui ont des positions extrêmement radicales. Il va devoir négocier avec eux, se mettre d'accord avec eux. Ou alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir une partie des modérés, des élus au centre, faire alliance de l'autre côté. Et donc, finalement, pour les démocrates, c'est pas forcément une mauvaise situation parce qu'ils peuvent se retrouver, eux, à aller chercher des élus républicains modérés.
Célia Bellin, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Des démocrates en Amérique, un livre paru chez Fayard. Merci à Maxime Das à la réalisation et à Sigrid Azeroual qui m'a aidée à préparer cette émission.